Habacuc. Je vous invite à aller dans Habacuc dans votre Bible. Habacuc. Voilà, au chapitre 1er, voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi. Il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste, c'est pourquoi un droit perverti s'établit. Habacuc est un prophète de Dieu au temps du roi Joachim, juste après Josias, le roi Josias, et à ce temps-là, vers 605, eh bien, les Babyloniens allaient fondre sur Israël, et c'était quelque chose d'un petit peu étonnant. Il y avait beaucoup de violence sociale dans le pays, la loi n'était pas respectée, et le prophète était attristé de voir le peuple dans l'état où il se trouvait. Regardes-tu l'oppression, pillage, violence sont devant moi, il y a des contestations, de la dispute, la loi est paralysée. On devrait être dans un pays où règne la loi, où règne la justice, où règne le droit, et malheureusement, eh bien, ce n'est pas ça qui se produit. Nous sommes en Europe, nous sommes en Belgique, et est-ce que la loi et le droit sont respectés parfaitement? Non, nous sommes déjà dans une démocratie, c'est déjà pas mal, dans un état de droit. Donc, il y a plus de justice que dans d'autres qui sont dans le monde. Mais les dessous de table et ce qui se passe exactement dans le pays et tout ce qui se produit dans les villes, certainement ne reflète pas la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de choses qui ne sont pas belles. Et bien sûr, il y a la crise. Il y a bien sûr beaucoup d'insatisfaction, une insatisfaction permanente, une espèce de violence qui ne demande pas grand-chose à éclater. Il y a bien sûr, comme vous le savez, beaucoup de problèmes avec le radicalisme islamique, avec le terrorisme, et c'est à la porte. Ça peut éclater n'importe où, n'importe quand. Les gens ont peur. En tant que chrétiens, devons-nous avoir peur? Non. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est notre protecteur, il est notre rocher, nous l'avons chanté. Il faut croire ce que nous chantons, il est celui qui nous protège. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait rien, absolument rien nous arriver. Ce n'est pas dit non plus. Et le psaume dit, il y a un psaume qui dit que si 10 000 tombent à ta droite, 1 000 ou 10 000, rien ne t'atteindra. Psaume 91. Et c'est vrai que Dieu est celui qui nous protège, c'est un Dieu magnifique qui est formidable, et nous nous confions en lui. Malgré tout, nous avons des épreuves aussi. Le chrétien n'est pas amené à avoir une vie sans problème. Non, au contraire, mais nous pouvons les traverser, nous pouvons les dépasser, nous pouvons être au-dessus de nos difficultés, et nous pouvons les vaincre. Ça, c'est ça qui est important. Alors, il y avait dans le prophète Habacuc, il y avait des arguments, des doléances. Il n'était pas complètement satisfait avec Dieu par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à l'état de ce qui se produisait. C'était pas vraiment quelque chose d'heureux pour lui, parce que il voyait l'état de son peuple et l'état de l'Église aussi, nous pourrions dire parallèlement. Est-ce que nous pouvons être heureux parfaitement du témoignage que l'Église rend au monde? Parce que bon, l'Église ne se borne pas à Bad Villers, bien sûr. L'Église, elle est universelle. Et vous savez, vous n'avez pas la possibilité de dire « Oh, c'est pas notre église hein? ». Même si nous sommes des églises séparées par rapport, je vais dire, à d'autres églises institutionnalisées, hein? C'est pas parce que il y a des péchés dans une autre qu'on va la critiquer, parce que l'église est une, bien sûr, l'église de Jésus-Christ, l'église avec un grand E. Ce sont ceux que Dieu reconnaît comme étant les siens. Et ça veut pas dire que tous ceux qui se disent chrétiens le sont. Mais il y a des chrétiens un peu partout, même dans d'autres confessions. Il faut accepter aussi, nous ne sommes pas nous n'avons pas des œillères au point de dire qu'en dehors de notre église, tout le monde est perdu, hein, ou en dehors de notre façon de voir les choses, on est perdu. Non, Dieu est capable de sauver malgré les fautes des hommes, malgré des doctrines qui ne sont peut-être pas parfaites comme Dieu voudrait, mais Dieu est capable de sauver, hein. Malheureusement, il y a des gens qui sont perdus justement parce qu'ils mettent leur confiance dans des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et vous savez, pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Hein, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et voilà, il est né de la Vierge Marie, c'est sûr. Hein, et il viendra pour juger le monde. Il va revenir pour chercher son Église avant. Hein, bien sûr, il a donné son Saint-Esprit pour nous faire connaître sa parole. Mais on vient à Dieu par la repentance et par la foi. C'est pas la foi dans une institution. Hein, toutes ces choses, nous le savons. Alors, voilà, Dieu va envoyer les Babyloniens contre Juda. Les Babyloniens, les Chaldéens, voilà le mot que je voulais retrouver, les Chaldéens vont être envoyés sur Juda pour punir Juda. Et le grand problème du prophète Habacuc, c'est de se demander, mais comment est-ce que Dieu va punir son peuple par une nation qui n'est même pas fidèle à Dieu? Si ils sont pas très fidèles, Israël, ou Juda, plutôt, le peuple de Juda, mais comment alors est-ce qu'on peut être puni par quelqu'un de vilain, de méchant, qui n'a aucun égard par rapport au Dieu d'Israël, et qui a une conduite malpropre, malsaine, qui est pas claire, d'une méchanceté invraisemblable, d'une violence incroyable? Alors, il dira même sa force à lui, au peuple chaldéen, voilà son Dieu. Il a mis sa confiance dans sa force. Est-ce que ce n'est pas ça aussi que nous voyons dans notre société, où les gens mettent leur confiance dans leur athéisme? Hein, parce que bon, la Révolution française, par exemple, on a séparé l'État de la religion. C'était certainement une bonne chose que l'État et la religion soient séparés, mais ils ont mis, je vais dire, sur un piédestal, je vais dire, les valeurs de la République, au point d'éjecter Dieu complètement et de le mettre dans la sphère privée. La religion, si vous voulez en parler, vous en parlez en privé. C'est votre problème, mais c'est tout à fait personnel et c'est tout à fait privé, parce que c'est les grandes valeurs. Mais en oubliant que les valeurs qu'ils ont, c'est les valeurs bibliques. Parce que qu'est-ce qui a donné à l'Europe ces valeurs? C'est les valeurs judéo-chrétiennes venant de la Bible. Hein, l'Europe qui a été christianisée par des missionnaires venant d'Irlande, hein, une des premières nations d'Europe à avoir reçu l'Évangile. Et puis, l'Évangile s'est répandu dans nos contrées. Et donc, il y a quand même des valeurs, un socle qui a été posé et qu'il faut pas rejeter. Et donc, nous sommes en perte de vitesse par rapport à toutes ces valeurs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de violence, de mécontentement, des gens qui cherchent à être heureux, qui cherchent tous les moyens à être heureux, qui rejettent en même temps le Christ et les valeurs judéo-chrétiennes, et qui se tournent vers des religions et philosophies asiatiques, ou autre. Hein? horoscope, toutes ces choses, médium, la psychologie. Je ne suis pas contre la psychologie, parce que la psychologie peut faire beaucoup de bien. Hein? Mais quand on rejette Dieu de notre société et de nos vies, ben, il ne faut pas s'attendre à être béni, à être heureux. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille bien. Alors, Habacuc dit ceci, « Mais toi, tu n'es pas depuis toujours, éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Éternel, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as affermi pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traites? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui ? Dieu ne semble pas bouger pour venir juger les méchants et les punir. » Habacuc est confiant dans la protection de Dieu. C'est vrai, je ne mourrai pas. Ça, il sait bien. Il sait qu'il est en Dieu. Il sait qu'il y a une protection. Mais il ne comprend pas parce qu'il pressent le jugement qui va venir. Il le pressent. Et Dieu va juger les méchants et les punir, ça c'est clair. Et il a aussi confiance dans la sainteté de Dieu. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc la pensée d'Habacuc, c'est un Dieu qui est saint et qui punit le mal. Mais il ne peut pas accepter que le peuple de Dieu va être détruit par une nation étrangère pire qu'Israël. Ça, c'est quelque chose qui... Parce que c'est quand même un peuple, c'est quand même le peuple de Dieu. C'est très difficile. Il a des arguments, il veut pas accepter ça. C'est difficile pour lui. Alors, vous savez que la maison de Dieu, c'est l'Église, elle sera jugée la première. Enfin, il y a Israël, bien sûr, c'est toujours le peuple de Dieu, il y a un reste qui sera sauvé, il y a toujours des promesses pour Israël, mais il y a un nouveau peuple qui est l'Église. Hein? Et Dieu a détruit l'inimitié, le mur qui séparait l'un et l'autre. Hein? Nous faisons un peuple, en tout cas le reste d'Israël qui sera sauvé, qui croit au Seigneur Jésus, qui croit à son Messie qui est déjà venu. Ils reconnaîtront un jour le Christ crucifié, hein? Celui qu'ils ont crucifié. Ils le reconnaîtront un jour, c'est Zacharie qui le dit. Et ça ne fera qu'un peuple. Mais le peuple de Dieu sera jugé en tout premier. Nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ. C'est-à-dire que nous devons nous purifier, nous sanctifier et voir la sainteté comme Habacuc la voit. Il y a une sainteté. Dieu demande que nous soyons saints. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu sans la sanctification. Alors, il a beaucoup de doléances, comme je l'ai dit. Il a des choses, des arguments, il y a des choses qui ne vont pas par rapport à ce qu'il voit. Et il va aller sur le rempart et il va s'attendre. C'est une sentinelle. Le prophète, c'est une des définitions du prophète, c'est une sentinelle. Celui qui veille. Celui qui reçoit la parole de Dieu pour transmettre au peuple la parole reçue de la part de Dieu. C'est une sentinelle qui veille et donc qui regarde de loin ce qui se passe. Une sentinelle se met à une position au-dessus du rempart pour voir très loin, le plus loin possible, parce que l'ennemi, si on le voit, il faut pas qu'il soit trop près pour avertir les autres, pour avertir la garnison, pour avertir tous ceux qui doivent défendre. Il faut voir de loin. Et donc, un prophète, c'est donc quelqu'un qui est une sentinelle qui veille et qui voit de loin ce qui va se passer. Je crois que c'est important. Si nous ne veillons pas, si nous n'avons pas l'oreille sensible, eh bien, nous ne connaîtrons pas. Hein? Et c'est ça que le Seigneur Jésus dit que la nuit ne fonde pas sur vous comme quand le retour du Seigneur se fera, quand il viendra nous rechercher, que ce ne soit pas comme un voleur qui vient dans la nuit. Oui, il sera un peu comme un voleur dans la nuit pour certains, mais pour ceux qui veillent, ce ne sera pas comme un voleur, parce que nous n'avons pas à redouter le Seigneur qui revient. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous serons en train de vivre pour lui? Est-ce que nous serons en train d'arracher les âmes de l'enfer? Est-ce que nous serons en train d'accomplir la volonté de Dieu quand il reviendra, qu'est-ce qu'on fera? Où est-ce que nous serons? Comment sera l'état de notre cœur? Je crois que c'est tellement important. Et on le voit ici au chapitre 2, verset 1. « Je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. » Parce que il veut entendre la voix de Dieu, mais il a déjà des répliques à lui faire. Il veut entendre la parole de Dieu, mais il y a des choses qu'il a envie de dire à Dieu. Il a déjà la réplique. C'est comme quand on écoute, hein. Oui, tu peux me parler, mais j'ai déjà la réplique. Je sais déjà ce que je vais te dire. D'ailleurs, je ne t'écoute plus, je sais ce que je vais te dire. Et c'est quelquefois comme ça. Malheureusement, on devrait écouter sans avoir déjà des répliques à formuler. Hein? Et c'est des fois des conversations à sens unique où on sait déjà ce qu'on va dire à la personne, n'écoute même pas. Hein? Non, je vais te dire comment on vient à Dieu, j'ai même pas besoin de savoir ce que tu penses. Dans l'évangélisation, c'est mauvais. Il faut quand même, l'autre sent si on l'écoute. Hein? Si on va déjà lui dire ce qu'il doit faire. Et donc, le prophète, il sait écouter. Mais il a des doléances, il a des choses, il a des répliques qui sont plein son cœur. Il en a gros dans son cœur. Et quelquefois, il y a de la colère, non? Il y a plein de gens dans la société qui ont de la colère. Ils expriment leur colère de différentes manières, un point contre Dieu. Et certains l'expriment en devenant homosexuel, en se tournant, en changeant l'ordre des choses. Et il y a une colère, mais c'est tourné contre Dieu, mais ça n'explose pas, mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de leur vie. Et quelquefois, ça explose, et quand ça explose, ça fait mal. Il y a toutes sortes de formes de colère, plein de formes de colère. Habacuc se prépare à entendre la voix de Dieu. Le prophète est une sentinelle à l'affût, hein, c'est ce qu'on disait. Et il a des réclamations. Et l'Éternel va lui dire quelque chose. Il va lui dire au verset 2, « Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée, elle aspire à son terme, elle ne décevra pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement et ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Et donc, il y a une vision, et Dieu va réaliser cette vision. Hein? Les Chaldéens vont venir. Ça, c'est le type de l'orgueil. Le type de l'orgueil, son âme est enflée. Il s'était enflé, il s'était appuyé sur leur force. Et ils étaient l'instrument de Dieu pour châtier Israël. Mais ils vont même plus loin. Ils vont d'une guerre à une autre. Et ils s'enorgueillissent, ils croient être les maîtres du monde. Il y a beaucoup d'hommes comme ça sur la terre qui croient être les maîtres du monde. À un moment donné, quand ça marche bien, on pense qu'on va conquérir le monde entier. Regardez Hitler, à un moment donné, il pensait qu'il allait conquérir le monde entier. Mais à un moment donné, il a été stoppé. Et tous les antéchrists du monde qui ont existé et qui existeront, croiront à un moment donné avoir le dessus et d'être capable de vaincre toute opposition et d'être les rois surannés au-dessus de tout à l'excès, avec un coup démentiellement gonflé. Mais voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Et le Chaldéen, les rois de Chaldée étaient gonflés, son âme n'était pas droite en lui. Et le jugement ne sera pas différé. Il y a un temps, il y a un terme. Et vous savez que le monde dans lequel nous vivons, il y aura un terme, il y aura un jugement qui va s'abattre. Et les gens sont en train de rigoler en disant « Ah, une fin du monde, on peut en rire, on fait toutes sortes de films pour bien rire de ça ». Chacun sait que finalement, il y aura quand même une fin, parce qu'écologiquement, on sait quand même qu'on va pas pouvoir tenir le coup. Mais d'un autre côté… Finalement, on relativise tout par rapport à Dieu. Et l'échéance ne fait peur à quasiment personne. Et de toute façon, dans les églises, on parle de moins en moins du retour du Seigneur. On en a parlé énormément, on disait aux gens de se préparer, Jésus revient, et puis finalement il y a moins de prédications qui annoncent, et pourtant il revient, il est prêt, je reviens bientôt, son retour est imminent. Est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce que l'Église s'y prépare? Et donc, si elle tarde, dit Dieu, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Et entre-temps, bien, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. C'est tellement important. Quelle parole qui a été reprise dans le Nouveau Testament en plusieurs endroits. Le juste vivra par sa foi. Il n'est pas dit que le juste vivra par la loi, mais il est dit que le juste vivra par sa foi. Extraordinaire que c'est annoncé dans le livre d'Habacuc que le juste ne vivra pas par la loi parce qu'il n'est pas possible que la loi produise la vie, parce qu'elle a produit la mort. Elle nous fait connaître. La loi, elle a été donnée pour être un pédagogue, pour nous conduire à Christ. Parce que, justement, elle est marquée par la mort. C'est des lois de vie, mais quand on les transgresse, ça nous conduit à la mort. Dieu veut que nous soyons heureux, Dieu veut que nous soyons en vie, mais seulement la loi conduit à découvrir que nous avons besoin de Christ, qui est le Sauveur, qui nous sauve de la loi. Lui qui a réalisé en lui-même tous les commandements. Il les a vécus parfaitement et donc il est capable de nous en libérer, de libérer de la conséquence de la transgression, parce qu'il a pris sur lui nos fautes et il a parfaitement accompli la loi. Et en lui, nous avons la victoire. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la justice. Donc, le juste vivra par sa foi, c'est-à-dire que nous sommes justifiés, pas par la loi, mais par la foi. La même foi qu'Abraham avait avant la loi, parce qu'il a été rendu juste devant Dieu par la foi avant la loi. Et c'est la même foi d'Abraham que nous avons pour être sauvés, pour être déclarés justes devant Dieu. Et ça, c'est toute la doctrine de la justification. Nous sommes rendus justes devant Dieu par la foi. C'est ce que Paul, d'abord, puis Luther au XVIe siècle, redécouvrira, que le juste est rendu vivant et justifié par sa foi, par la foi. Donc en Romains 1:17, c'est ce qui a transformé la vie radicalement de Luther, par exemple, hein, aussi Paul, bien sûr. Paul a compris ces choses bien avant et nous a rendu l'accès à la clé de compréhension. Romains chapitre 1 verset 17, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, notre justice, c'est celle du Christ. Jésus a été justifié et il justifie, il s'est identifié à notre condition, pour nous rendre justes, si nous nous approprions le sacrifice de la croix, ce que Jésus a accompli, nous nous approprions aussi la justice. Et nous sommes rendus justes par la foi. Et nous évitons de cette manière le jugement du monde. Le monde qui ne croit pas sera jugé, parce que justement, il n'a pas la foi. Le seul moyen pour être sauvé n'est pas « Oh, il n'était pas si méchant que ça. » Non, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par la foi, par le moyen de la foi. Hébreux chapitre 10, versets 37 et 38. Ah oui, d'abord Galates 3:11. Et que nul ne soit justifié de Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. La loi fait mourir, on l'a vu, hein, par ses exigences, mais la foi fait vivre en Jésus-Christ. Donc nous avons la vie par la foi. Ça, c'est tellement important. Alors, Hébreux, chapitre 10, versets 37 et 38. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, car encore un peu de temps, bien peu, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Et donc, il est dit ici, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Mon juste vivra par sa foi, mais dans la mesure où il persévère dans la foi. Il y a donc l'idée d'une persévérance. Par la foi, nous avons la vie en Christ, nous avons la justification par la foi. Mais il faut persévérer. Sans persévérance, nous ne verrons pas Dieu. Sans persévérance, notre foi sera inutile, parce que cette foi, si nous l'abandonnons à un moment donné, nous ne serons plus sous la foi, mais sous la loi. C'est la loi qui nous condamnera à ce moment-là. Et donc, nous devons rester et persévérer dans la foi. Et ce que Habacuc dit, c'est que Dieu va manifester quelque chose d'extraordinaire. La gloire de l'Éternel va couvrir la terre. Vous savez, quand Jésus va venir, il y aura plus de gloire. Il avait été dit qu'il y aurait plus de gloire un jour dans le deuxième temple que dans le premier. La gloire sera supérieure dans le deuxième temple, hein, qui a été transformé par Hérode le Grand. Pourquoi ? Pas tellement que le deuxième temple était supérieur architecturalement parlant au niveau des qualités de l'or et de la profusion qu'il pouvait y avoir au temps de Salomon. Si on compare le temple de Salomon et le temple sous Agé et Zacharie, ben, il y a une différence. Au temps de Zorobabel, Agé, on voit qu'il y a une grande différence. Les gens pleuraient à la vue de ce temple par rapport à l'autre. En tout cas, ceux qui avaient connu le premier et en comparaison avec le deuxième. Mais Dieu avait dit prophétiquement que la gloire serait supérieure pour le deuxième. Pourquoi ? Parce que Jésus est entré dans le temple. Jésus lui-même est entré dans le temple. C'est pour ça que sa gloire a été supérieure. Et ce que Dieu veut, la finalité, c'est que la gloire de Dieu puisse remplir la terre comme l'eau recouvre le fond des mers. C'est ça que Dieu fait. Et comment est-ce qu'il peut faire cela ? C'est quand nous annonçons la bonne nouvelle qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui nous a... Parce que ce qu'est Habacuc est en train de dire, c'est que le Messie va arriver. Le Messie qui va les sauver va venir. Et un jour, c'est vrai que Dieu va punir le monde présent. Mais il y a déjà, dans la prophétie d'Habacuc, la vision messianique, le Messie qui vient pour bénir son peuple, sauver son peuple, le libérer, et aussi, il y a encore un point de mire plus loin, le jugement qui va arriver. Mais en attendant, il faut vivre par la foi. Le juste vivra par sa foi. Alors, c'est le verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Voilà, c'est tellement important. Chapitre 3. « Éternel, j'ai entendu, verset 2, ce que tu as annoncé, j'ai de la crainte, Éternel, devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Souviens-toi de ta compassion. Et nous allons aller un peu plus loin, verset 13. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton Messie. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton Messie. Tu brises le faîte de la maison du méchant. On le voyait au verset 9, ton arc est mis à nu, tes serments sont les flèches de ta parole. Donc, Dieu va intervenir au travers de son Messie. Le Messie, c'est qui ? C'est Jésus-Christ qui va venir sur la terre, qui va apporter le salut, la guérison, la délivrance, qui va venir nous transformer, qui va venir nous remplir de son esprit, qui va faire une œuvre extraordinaire, qui va bâtir son église sur la terre. C'est extraordinaire. Et les promesses de Dieu sont comparées, sont des serments. Et des serments, c'est des paroles qui ont été dites par Dieu et que Dieu va réaliser. Nous sommes dans les paroles des hommes. Notre société a plein de paroles, des lois qui changent les unes après les autres, des gouvernements qui se suivent et puis qui inventent d'autres. Et l'éthique est bouleversée constamment. Les hommes changent, les hommes transforment. Il faut s'acclimater, il faut se mettre au goût du jour, il faut vivre dans son siècle. Et ça change, et ça change, et ça change. Mais la parole de Dieu ne change pas. Ce que Dieu a promis, il va le faire. C'est pas que nous sommes des traditionalistes qui essayons de garder les choses du passé intactes. C'est pas ça. Hein, comment est-ce qu'on les appelle, les politiciens qui restent à cheval sur les choses du passé? Les conservateurs. C'est pas que nous sommes des conservateurs. Ah, il faut rien changer, hein. On va rien changer. D'accord? On est content comme ça. C'est pas qu'on est des vieux conservateurs. D'accord? Mais que la parole de Dieu est immuable. Que la parole ne change pas. Que la parole de Dieu est éternelle. Elle subsiste d'âge en âge et Dieu a fait des serments sur lesquels il ne reviendra pas. La parole de Dieu ne changera pas d'un iota. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne doit pas réviser ses lois en disant, oh là, je me suis un peu trompé, j'ai peut-être dit quelque chose. Non, on va faire un peu autrement maintenant. Parce que bon, on est au 21e siècle. Non, il n'y a pas besoin. Dieu ne change pas. Il est le Dieu éternel, il a donné une parole qui ne changera pas. À nous, à la comprendre, à l'interpréter correctement. Ça, c'est sûr. Et nous pouvons regarder ici au verset 16. J'ai entendu... Chapitre 3. Et mes entrailles ont frémi à ce bruit, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent, et sans bouger je frémis, d'attente le jour de la détresse, où notre assaillant montera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, point de vendange, dans les vignes, la production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables, ce qui vient en premier chronologiquement, c'est le jugement de Dieu sur un peuple barbare. La destruction est au rendez-vous. La famine va être là. Donc, je veux dire, ce que le prophète est en train de voir, c'est quelque chose de totalement négatif. Des choses mauvaises vont arriver. Est-ce que je peux prédire quelque chose de bon pour notre société? C'est difficile. J'espère que le plus grand nombre va être sauvé. J'espère que des centaines et des milliers de personnes seront sauvées. Mais il y en a une majorité, il faut quand même être clair avec ça, une majorité iront toujours plus dans le mal. Notre société ne va pas beaucoup s'améliorer. Nous devons tout faire pour que les âmes puissent connaître le Seigneur, tout faire pour que la lumière du Christ puisse briller dans notre société, mettre un sourire sur nos lèvres pour accueillir les gens. Et les aimer, mettre de l'amour dans tout ce que nous faisons, d'accord? Nous devons pas être des gens tristes et longer les murs en disant tout va mal. Ça, c'est les gens du monde, ça. Tout va mal. Nous devons savoir que les choses ne vont pas bien, mais nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Donc, nous devons annoncer une bonne nouvelle avec joie et certitude. D'accord? Et le prophète voyait que tout allait en se déglinguant, ça lui faisait peur, la vision que Dieu lui donnait, parce qu'il savait ce qui allait arriver pour son peuple, et c'était pas quelque chose de facile à accepter, hein. Et il ne va pas se morfondre, parce qu'il a la foi, justement. Mon juste vivra par sa foi. Et la foi d'Habacuc va lui permettre de surmonter toutes les épreuves qu'il est en train de voir, d'envisager par prophétie. Et qu'est-ce qu'il dit ? Au verset 18, « Mais moi, j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Voilà. Donc, Habacuc est en train de triompher, de monter de niveau. Il sait que c'est par la foi qu'il doit traverser les épreuves, mais non seulement par la foi, mais aussi par la joie. Mettre sa joie dans le Seigneur, et il est en train de chanter un cantique. Il est en train d'exulter, et on peut voir pratiquement Habacuc en train de danser. D'accord? Voyez Habacuc qui était là, morfondu sur le triste sort de son peuple, avec des questionnements, avec des répliques à dire à Dieu. Et puis maintenant, il est sorti de ce point-là, il est dans la foi, et il est plus que dans la foi maintenant, il est dans la joie, et il exulte, il sait que tout va aller de travers, mais il sait... Non, c'est pas un musicien sur le Titanic, hein. Ça n'a rien à voir. On va faire de la musique pour oublier que le bateau est en train de couler. Non, il est en train vraiment d'exprimer une joie sincère et profonde en son Dieu, hein, parce qu'il sait que tout est tenu dans la main de Dieu. Vous savez, le monde et ce qui va arriver est dans la main de Dieu. Dieu est souverain, il tient les événements de la fin entre ses mains. Hein, même si nous sommes à moins 5, il tient tout entre ses mains, d'accord? Il tient tout entre ses mains, il ne s'alarme pas, il ne s'apitoie pas, il ne se décourage pas, mais au contraire, il exulte, il est dans la joie et il marche sur les hauteurs. Il dit que Dieu le fait marcher sur les hauteurs, il est au-dessus, c'est pas qu'il plane, pas du tout, il est bien les deux pieds sur terre, sur les hauteurs seulement. Il n'est pas dans la vallée du découragement. Il est sur la hauteur, en train de prendre, il est hissé à un autre niveau. Il est au-dessus des difficultés, des problèmes, et il peut regarder avec une autre considération les difficultés dans lesquelles il se trouve et où son peuple se trouve. Parce que Dieu lui met la tête dans le ciel. Il a les pieds sur terre, mais déjà la tête dans le ciel pour regarder ce qui se passe en bas. Et est-ce que vous pouvez accéder à cette vision-là, hein? C'est Gaston Ramseyer qui parlait de ça, d'avoir les deux pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et de là, on peut voir les situations. On n'est pas obligé d'être coulé, d'être... Quand vous marchez sur l'eau, Dieu ne demande pas que vous marchiez dans le fond de la mer, avec la mer qui est au-dessus de vous, mais quand il vous demande de marcher sur l'eau, c'est au-dessus de l'eau, c'est pas au fond de l'eau. C'est sur l'eau, et vous pouvez voir que vous êtes au-dessus des difficultés, pas en dessous. Et c'est dans la foi. C'est dans la foi que nous pouvons exprimer une véritable joie. La joie de la certitude de ce que Dieu tient votre vie entre ses mains, et les événements de notre société. Hein, je me disais, notre société, ce que nous vivons en Grèce, en Espagne, etc., si on mettait ça sur une grande ligne du temps, avec un diagramme, comme on voit le cœur, comme il peut battre, et nous serions peut-être dans un tout petit V, mais sur l'histoire, qu'est-ce que ça représente? Pas grand-chose. Et l'histoire, qu'est-ce que c'est pour Dieu? C'est une ligne, oui, mais qui a un début, qui a une fin, mais Dieu est éternel, il est avant et après. Donc il tient vraiment tout entre ses mains. Il n'y a pas de crainte à avoir, aucune crainte à avoir. Nous allons remercier le Seigneur.